Salut à tous et bienvenue sur Radio Canu. Bienvenue à On n'arrête pas le prog, l'émission de Radio Canu consacrée au rock progressif, tous les mercredis de 17h à 18h. On est deux à présenter cette émission. Moi, c'est Clément, à mes côtés François.
Hello, hello.
Salut à tous, bienvenue à ceux qui nous découvrent. Et pour ceux qui nous suivent un petit peu, j'avais annoncé déjà la semaine dernière que ce serait une émission spéciale aujourd'hui. Et effectivement, c'est le cas, puisque nous recevons Franck Carducci dans cette émission pour une interview le temps de toute l'émission. Donc bienvenue à toi Franck.
Salut à tous, merci de me recevoir.
Avec grand plaisir. Ça fait un moment que tu roules ta bosse dans le milieu du rock et du prog. Et là tu as sorti un nouvel album, ton troisième, The Answer, fin novembre 2019.
Exactement, fin novembre, The Answer. Voilà. Le troisième album studio, oui.
Troisième album studio, il y a eu un live aussi.
Il y a eu un live qui est sorti en 2016.
Donc, pour commencer par le commencement, est-ce que tu peux peut-être te présenter un petit peu ton parcours pour les auditeurs qui ne te connaissent pas ?
Ah oui, alors c'est bien parce que c'est un peu un retour aux sources pour moi ici, parce qu'en fait j'ai commencé, donc je suis lyonnais, et j'ai commencé la musique live dans les pubs de la Croix-Rousse, donc vraiment pas loin d'ici, dans les petites rues adjacentes à Radio Canu. Quand j'avais 15 ans, je me rappelle que j'avais 14-15 ans, je commençais à faire des concerts dans les pubs où j'avais même pas l'âge d'y entrer, normalement il fallait avoir 16 ans. Donc en fait j'ai grandi dans une famille de musiciens, avec mes oncles et mes cousins, il y avait de la musique partout, et donc voilà, dans le milieu lyonnais, j'ai commencé à un peu envahir la scène lyonnaise, la scène rock lyonnaise. Alors c'était de la reprise hein, à l'époque, je le dis, avec 15, 16 ans, 18, 20 ans. Et on faisait des reprises dans les pubs, Place des Terreaux et les Pentes de la Croix-Rousse, tout ça.
D'accord.
Donc ouais. C'est un quartier que je connais très bien.
Ouais, ok. Et donc, quand est-ce que tu t'es décidé à te lancer dans tes propres compositions de rock progressif, enfin même si...
Alors en fait, je vais te dire que ça s'est fait en plusieurs étapes. C'est-à-dire que déjà à cette époque-là, j'avais mon petit magnéto et j'enregistrais des compos que je faisais sur mon petit magnéto, tu vois, et sur mes petites cassettes que je faisais écouter à mes copains. Mm-hmm. Ensuite, quand j'avais une vingtaine d'années, je travaillais. Alors mon cousin Richard Vecchi, qui avait un studio d'enregistrement à Lyon, rue Paul Bert. Donc je faisais pas mal de studios avec lui. Je faisais des sessions pour d'autres artistes qui venaient, qui avaient besoin d'un bassiste ou d'un guitariste. Des fois, je faisais des enregistrements. Après, j'ai commencé à bosser dans plusieurs studios dans la région, tout en continuant à faire des petits concerts. Et puis j'enregistrais moi mes maquettes de mon côté, tu vois.
D'accord.
Et puis de temps en temps, je faisais écouter mes maquettes à des copains qui me disaient putain mais c'est pas mal et tout. Puis des fois, on me disait putain mais c'est bien tes morceaux, tu devrais faire un album, ça serait sympa. Mmh. Et puis là, je répondais toujours la même chose, c'est-à-dire bah pff, ça sert à rien en fait, parce que faire un album, personne me connaît, ça va intéresser personne, tu vois. Ouais, ouais. Mais ils sont pas mal tes morceaux. Ouais, bon, c'était des maquettes, tu vois. Mmh. Et ça a continué comme ça, je dirais, pendant une dizaine d'années où moi je jouais dans plein de groupes. Alors j'ai joué avec, je suis rentré aussi dans le milieu de la country avec une chanteuse de folk.
D'accord.
Où on faisait des gros festivals un petit peu dans toute l'Europe. Donc moi, je l'accompagnais à la basse et au chœur.
D'accord.
Et puis de temps en temps, je faisais écouter mes morceaux. Ah, mais c'est bien, tu devrais faire un album. Pff, ouais, ça, c'est toujours la même réponse, ça sert à rien.
Ouais.
Personne me connaît, ça intéresserait personne. Et un jour, j'ai eu le grand privilège que moi, je suis quand même un grand fan de rock progressif depuis que je suis ado. Mmh. J'écoute Pink Floyd, tu vois, Supertramp, Led Zeppelin, Yes, ce genre de groupe depuis que je suis adolescent. Quoi. Mmh. Genesis, tout ça. Et un jour, j'ai eu l'occasion, via l'association Genesis France, de m'occuper d'un concert de Steve Hackett, qui
D'accord.
venait en Alsace.
D'accord.
Et donc j'étais ami avec l'organisateur qui était le président de l'association, qui me dit on a reçu la fiche technique de Steve Hackett, on est un petit peu débordé, on comprend pas tout, est-ce que tu pourrais venir? En plus toi tu parles anglais. Donc à l'époque j'habitais à Amsterdam, c'est-à-dire qu'à un moment donné j'ai déménagé pour Amsterdam.
Ouais.
Et je suis rentré dans la scène locale là-bas. Donc pareil, là-bas t'as des concerts, des clubs qui jouent tous les soirs 365 jours dans l'année. Donc j'ai rejoint la scène locale.
D'accord.
Je faisais des concerts pareil de reprise hein. Ça c'est des pubs où tu joues jusqu'à 4h du matin.
Ouais.
Pour divertir les gens. Bref, donc je me retrouve avec cette proposition et je dis bah ouais, et il me dit bah tiens, pour te remercier de nous aider, si tu veux tu fais un petit set acoustique d'une demi-heure avant, juste avant Steve. Donc là, il me dit, ah génial, là tu vas rencontrer une de tes idoles, tu vois, Steve Hackett, moi je veux dire, j'ai bu chacune de ses notes depuis que j'ai 12 ans, tu vois. Donc c'était super, donc je suis arrivé là-bas, c'était un événement sur deux jours. Il faisait un set acoustique avec son frère, John Hackett,
oui.
Et le lendemain avec le groupe complet, le Steve Hackett Electric Band. Et ça, je te raconte, c'était en 2010, si je ne me trompe pas.
Okay.
Bref, donc je m'occupe là-bas tout le week-end de Steve, je fais la relation entre la technique et le festival, tout ça, tout se passe bien. On fait le petit concert juste avant, une demi-heure, donc avec un collègue lyonnais aussi qui était venu justement, à deux guitares 12 cordes, où on reprenait des chansons de Genesis, tu vois, en version acoustique.
Oui.
Et puis du coup, comme c'était juste avant Steve, Steve était prêt, tu vois, et il était juste sur le côté de la scène. Donc du coup, tu joues et tu tournes de temps en temps la tête sur la gauche et tu vois Steve Hackett qui est là, bras croisés, qui écoute attentivement, tu vois, puisqu'il est prêt à démarrer lui.
Mmh.
Bon, ça met un peu la pétoche, quand même, je te cache pas, quoi.
Et, c'est sûr.
Et Steve après me dit ah, c'est bien ce que tu fais et tout. Donc je discute avec lui 5 minutes avant qu'il attaque. Et je lui dis que j'habite à Amsterdam. Et il me dit je passe là-bas dans 3 jours, viens me voir. Parce que là-bas, si tu veux, sur le cadre du festival, il y avait plein de monde. Il était très très sollicité, comme tu peux t'imaginer. Sur un événement comme ça, on discutait 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là, plus de technique que tout. Passe me voir dans 3 jours, je joue là-bas à côté d'Amsterdam. Pas de problème. Donc 3 jours après, je vais dans la salle à côté d'Amsterdam, qui est une salle que je connaissais bien parce que tous les groupes de prog qui passaient se produisaient dans cette salle. C'est à Zoetermeer, juste à côté d'Amsterdam.
Ok, oui.
Tu connais, il y a un festival.
Oui, bien sûr. Puis je vois pas mal de trucs passer.
C'est le temple du prog là-bas. D'accord, enfin, ouais. Moi, j'avais été voir Kansas là-bas, j'avais été voir tout un tas de groupes, Steven Wilson aussi. Donc bref, j'arrive là-bas, je passe derrière la salle, je me faufile, je frappe à la porte, bien sûr les mecs à l'entrée qui me laissent pas rentrer parce qu'ils me connaissaient pas, puis là je vois la femme de Steve, Joe, qui était là et qui me reconnaît parce que c'était 3 jours après, elle me fait signe, viens rentre, tiens bah je t'emmène voir Steve, alors je dis je vais pas vous déranger, non on a fini de manger tout ça, le concert va démarrer dans 1 heure, tiens viens je t'emmène dans les loges, elle m'emmène dans les loges et là je rentre, il y avait Steve qui était là, salut tu vas bien machin, et elle me dit bon bah je vous laisse et elle s'en va, et là je me retrouve tout seul avec Steve. Donc c'était pas du tout comme au festival, là je me retrouve tout seul avec lui et on commence à discuter, et en fait c'est facile de discuter avec quelqu'un même quand tu le connais pas, parce qu'en fait tu le connais. Parce que moi si tu veux je connaissais tous les albums et il commence à me parler de L'Humblage d'un en Broadway, comment ils ont enregistré ça, comment il a fait telle partie de guitare, blablabli blablabla, et du coup je commence à lui faire écouter des trucs que j'avais fait, notamment avec Matisse, le groupe de folk, on avait fait une reprise de Carpet Crawlers mais en version folk, donc avec une violoniste tout ça, donc je lui fais écouter, il me dit ah, mais c'est marrant parce que justement j'ai pensé la guitare très violon quand j'ai enregistré Carpet Crawlers tout ça. Blablabli, donc je lui fais écouter 2-3 maquettes au passage. Mais on a discuté pendant plus d'une heure, c'était complètement hallucinant pour moi, si tu veux. Au bout d'un moment, je me dis, attends, je vais pas faire le lourd, Steve, je vais te laisser te préparer tranquille. Non, reste, on discute, ça me fait plaisir. Bon, je me rassois. C'était complètement une discussion où j'étais tout seul avec Steve pendant plus d'une heure, vraiment, il avait envie de parler. Génial, quoi. Et au bout d'un moment, il me dit, mais c'est sympa tes morceaux, j'ai écouté ce que tu fais et tout un petit peu, tu devrais faire un album avec tes morceaux, ce serait sympa. Donc là, je lui déballe ma réponse toute faite. Ah ouais, mais tu sais, ça servira à rien, personne me connaît, tout le monde s'en fout, personne ça intéresse à personne. Et là, Steve me dit, mais c'est pas grave, tu t'en fous, ça, tu le fais pour toi. Il me dit, tu le fais égoïstement, comme ça, si ça marche, tu seras content, si ça marche pas, tu seras content quand même, parce que tu l'as fait pour toi. Alors là, si tu veux, on m'avait jamais fait cette réponse, et puis en plus, quand c'est un héros.
Steve Hackett.
Ouais, tu vois, c'est Steve Hackett qui est devant toi, déjà, t'es là, tu fais pas le malin, quoi. Puis il te dit ça comme ça, naturellement, tu le fais pour toi, égoïstement. Il me dit, tu sais, dans la musique, la plupart des choses qu'on fait dans la musique, il faut les faire avant tout égoïstement. Tu fais les choses pour toi, et après, tu ressors une émotion que tu vas partager, mais à la base, tu l'as fait pour toi. Bon, le concert se passe, je retourne dans les loges après le concert pour dire au revoir, machin. On est resté en contact, il m'a laissé son numéro, je l'ai revu plein de fois depuis. Je repars chez moi dans la bagnole, je me dis là, mec, si tu le fais pas cette fois, tu ne feras jamais rien de ta vie, quoi, tu vois. Et du coup, le lendemain, je me lance dans le rapatriement des maquettes que j'avais déjà, plus un morceau que j'ai rajouté, commencer à composer un autre morceau. Et puis après, il a fallu tout que je réenregistre. Donc là, je suis revenu au studio, ici, avec le studio de quelqu'un qui s'appelle Christian Morfin, avec qui je bossais beaucoup, qui a toujours son studio d'ailleurs. Et on a réenregistré toutes mes maquettes et on a sorti l'album Audity un an plus tard, en 2011. Avec notamment John Hackett qui avait participé sur le premier morceau.
Ok. Et Steve Hackett participe aussi sur.
Et Steve Hackett sur le deuxième album. C'est lui qui m'a proposé qui de jouer, de faire un solo sur le. Quand je lui ai dit que je faisais le deuxième album, il m'a dit ah, si tu veux, je fais un petit solo sur ton album. Bah écoute. Ouais, tu sais, en plus, il me sort ça. C'était à Prague. J'avais été le voir, je sais plus pourquoi, parce que j'avais un cousin qui habitait là-bas. Et je lui ai dit bah tiens, je me suis lancé dans un deuxième album. Ah ouais, bah tiens, si tu veux, je te ferai un petit solo sur l'album. Alors sur le coup, toi, tu sais pas quoi dire. Après, j'ai pas dormi de la nuit, moi. Et puis voilà, mais on est toujours resté en contact. Je le vois encore assez régulièrement, et c'est quelqu'un d'adorable. Et c'est vraiment grâce à lui que je me suis lancé dans la compo et dans la production de mes propres chansons. Quoi. Ouais, jamais je l'aurais fait sans lui, sinon.
Ah, c'est une belle histoire, ça.
Mais ouais, on sait pas où ça nous mène, tu vois. À la base, je l'ai fait, je me suis dit tant pis. Puis finalement, comme lui, il avait participé, son frère aussi, il y a eu un petit peu de pub en Angleterre qui a été faite.
Ça a dû un peu aussi faire un petit éclairage.
Exactement, il y a eu quelques articles, notamment Prog Magazine qui avait fait une petite review, plus 2-3 autres magazines, tout ça. Et du coup, 6 mois après la sortie d'Audity, je commence à avoir des gens qui m'appellent pour faire des concerts, notamment à Borderay, à Zoetermeer, qui me disent tiens, il y a un groupe qui s'appelle Mosley Autumn qui passe, ils ont besoin d'une première partie. J'ai bien aimé ton album, ça te dirait. Je dis mais moi, j'ai pas de groupe, j'ai fait ça tout seul, j'ai pris 2-3 potes, tu vois. Et donc petit à petit, j'ai dû monter un groupe. Que le projet n'a pas un nom de groupe. Le projet s'appelle Frank Carducci parce que moi j'ai sorti cet album Audity tout seul. Hein, tu veux. Et puis c'est 6 mois plus tard que j'ai eu des propositions de concert. Voilà, un groupe s'est monté. J'habitais à Amsterdam. Quelques années ensuite, je suis revenu vivre à Lyon. Donc là, forcément, le projet m'a suivi. J'ai dû remonter un groupe ici à Lyon et ça a évolué tout ça. Mais à la base, c'était pas un projet de live. Même si moi je suis plus quelqu'un de live que de studio à la base. À la base, ce projet, c'est juste. J'avais des maquettes et Steve Hackett m'a dit tu devrais faire un album avec ces maquettes. Et je l'ai fait, quoi.
Oui, puis après, ça a évolué de soi-même. En fait,
exactement,
part, quoi,
exactement. Rien n'était planifié.
T'es pas le grand projet.
Donc c'est bien parce que tout ce qui m'arrive, pour moi c'est du bonus, quoi. Tu vois, j'avais pas tout planifié à l'avance et je suis pas triste si ça marche, si ça marche pas. C'est du bonus, quoi.
Cool.
Voilà.
Donc là, c'est le troisième album que...
C'est le troisième album qui est sorti donc le 28 novembre.
28 novembre.
Bien sûr.
Et donc, tu le sors en autoproduction, j'ai vu, tu n'as pas de label
Tout autoproduit. Voilà. Non, j'ai pas de label. J'ai pas eu de propositions qui m'ont intéressé. Et puis, j'aime bien garder ma petite liberté que j'avais quand je faisais mes maquettes chez moi quand j'étais gosse.
Ouais.
Bah, du coup, là, c'est pareil, je fais ce que je veux. Donc, c'est un peu plus contraignant parce que, bah, effectivement, il faut faire tout le boulot soi-même. Il faut avoir 50 000 casquettes.
Ouais.
Mais en même temps, bah, je fais ce que je veux et je vais à la vitesse que je veux. Et ça sera prêt quand ça sera prêt. J'ai pas de deadline.
Mmh.
Tu vois, enfin, je m'en mets quand même au bout d'un moment parce que je suis un peu lent, mais.
Oui, tu avais fait un crowdfunding, j'avais vu.
J'avais fait un crowdfunding et j'ai eu de la chance, ça a super bien marché.
Ouais.
Du coup, on a même pu se payer le mastering de l'album au Real World Studio, le studio de Peter Gabriel, et on a masterisé l'album là-bas.
D'accord, oui.
Donc ça, c'était quand même un gros bonus. Notamment, on l'a sorti en vinyle, le disque, c'était mon premier vinyle.
Mmh.
Et c'est vrai que le mastering pour le vinyle, c'est assez spécial. Je dirais c'est un truc qu'il faut quand même un savoir-faire d'avoir fait avant, et en plus tu peux pas le tester, enfin nous dans le studio dans lequel je bosse on n'a pas moyen de graver un vinyle et d'écouter pour voir
ce master,
contrairement au CD où tu vois tu peux graver le CD, tu l'écoutes, si tu sens qu'à plusieurs endroits ça passe pas bien tu peux refaire un mastering, tout ça tu vois,
pour le vinyle
tu peux pas. Et là je me suis dit bah on a le crowdfunding, on a eu 150% de ce qu'on demandait.
Super.
Et c'était l'occasion, tu vois, on a dépassé de faire ça. Et, et donc, on a travaillé avec l'équipe de Real World qui sont des super professionnels. Je vais expliquer tout de suite, voilà. Donc, je veux faire un mastering, un pour le CD, un pour le vinyle, pas de problème.
Et deux, bien sûr.
Sans super. En plus, très à l'écoute. Ils ont beaucoup aimé. Alors, c'est marrant parce que le gars qui a bossé, l'ingénieur du son, ils ont plusieurs ingénieurs du son, l'ingénieur du son qui a bossé, il venait de finir le live de Roger Waters qui est passé au cinéma.
Ah oui,
tu sais, ils font parce que là-bas, ils font beaucoup de musique de film aussi. Moi, j'avais été visiter les studios Real World il y a quelques années et ils ont tout le système pour faire du home cinéma, tu vois, du 5.1, même du 9.1, même ils font, je crois, pour les films, tu vois.
Ouais.
Et du coup, il y a pas mal de films et notamment les concerts qui sortent au cinéma. Donc Roger Waters, c'est idéalement ça parce que t'as plein d'effets qui passent à l'avant, à l'arrière. Et ben, ils font mixer et masteriser là-bas. Et donc le mec, je lui dis, ouais, tu sais, c'est un peu spécial, moi c'est pas trop moderne, moi c'est plutôt à l'ancienne, c'est 70s et tout. Ah, mais je viens juste de finir Roger Waters.
Ça va.
Je suis très très bien.
Pas dépaysé.
Me donne pas plus de
succession.
Il n'y a pas de problème.
Eh ben, très bien, on va peut-être s'écouter un premier morceau extrait de l'album.
Ouais.
Donc c'est le morceau qui ouvre l'album, Love is the Answer.
Ouais.
Moi, dans tous les morceaux de l'album, c'est peut-être celui qui m'évoque le plus Genesis, dans la douce corde,
Orgamon. C'est très psyché, ça c'est mon côté un peu babos, mon côté un peu hippie, je pense que ça s'entend dedans. C'est presque un peu orientalisant par moments.
Un petit peu aussi, oui.
Voilà, bah, c'est un morceau que j'ai fait un petit peu tout seul dans mon coin. Et il y a ma choriste Marie Reynaud qui a rajouté une petite partie à la fin qui n'était pas. Donc la partie finale, c'est elle qui l'a faite.
D'accord.
Et voilà, c'est un morceau qu'on a enregistré. Moi j'ai fait les guitares, les basses, et puis on a fait avec tout le groupe, on a fait les voix. Donc à un moment, t'as une espèce de chorale. En fait, c'est tout le groupe qui chante avec plusieurs prises les unes sur les autres pour donner un côté un peu mantra, tu vois.
L'hymne. D'accord.
Voilà.
Eh ben,
Love
très
is
bien.
The Answer.
On s'écoute ça tout de suite. C'est parti pour Love is the Answer de Frank Carducci. Voilà, on vient d'écouter Love is the Answer, extrait du nouvel album de Frank Carducci que nous avons le grand plaisir de recevoir dans cette émission. Pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes sur Radio Canu et l'émission c'est On arrête pas le prog. Et on poursuit donc cette interview avec Franck. Donc un extrait de ce nouvel album, par rapport aux deux précédents, comment tu le différencierais, comment tu le décrirais cet album-là?
Alors par rapport aux deux précédents, alors le premier, j'ai envie de te dire, c'est des vieux morceaux que j'ai composés quand j'étais ado et qui ont vieilli, qui ont été dépoussiérés après parce que c'était des maquettes que j'avais enregistrées et que donc ce que je disais tout à l'heure quand Steve Hackett m'a suggéré de le faire, donc ouais. C'était des vieux morceaux que j'avais écrits quand j'étais vraiment adolescent que j'ai un peu remis au goût du jour.
Ouais.
Le deuxième, Torn Apart, donc est sorti en 2015, donc c'est un album qui a été composé en gros en 2013-2014. Donc c'était une période un petit peu difficile de ma vie, sans rentrer dans les détails, j'habitais à Amsterdam, je suis revenu, il y a eu séparation, éloignement avec mes enfants qui habitent encore là-bas, tout ça, donc c'était une période un petit peu sombre.
D'accord.
Ça peut se voir sur la pochette, je pense, de l'album qui est un petit peu
torturé,
dark, un petit peu torturé, qui a été fait d'ailleurs par mon claviériste Olivier Castan, si il nous écoute, je le salue. Donc c'était un petit peu une image, tu vois, brisée, déchirée, avec des morceaux, avec des sujets un petit peu sombres, ça parlait donc de séparation, d'éloignement, de double personnalité, de bipolarité, d'addiction à la drogue, enfin tout un tas de sujets pas forcément très gays, même s'il y avait quand même des jolis passages à l'intérieur. On va dire que c'était une période un petit peu compliquée dans ma vie, donc l'album je pense a dû retranspirer au moins en partie cette période-là. The Answer, c'est une période de ma vie où je suis quand même beaucoup plus posé, donc je pense que c'est beaucoup plus cool, beaucoup plus doux, beaucoup plus baba cool, même s'il y a des passages quand même bien, bien hard dans l'album, parce que moi j'aime bien le hard rock. C'est plus posé, je dirais, c'est plus réfléchi, c'est plus Love is the Answer, tu vois, le titre qu'on vient d'écouter. Donc c'est, je pense que c'est... Alors après, il y a quand même des sujets... Il y a des sujets un petit peu légers, tu vois, comme Slave to Rock and Roll. Il y a peut-être des gens qui ont vu le clip qui est un petit peu une parodie, tu vois, du système Superstar Rockstar. Il y a des sujets un petit peu plus complexes qui parlent, notamment par exemple le morceau After Effects qui parle de quel est le sens de la vie humaine.
D'accord.
Donc en fait, ça c'est le morceau qui nous a inspiré aussi la pochette. Donc en fait, ça raconte l'histoire. C'est inspiré d'un épisode de Star Trek en fait.
D'accord.
Et l'idée de base venait encore une fois de Olivier Castan, mon claviériste. Ça raconte l'histoire d'une entité extraterrestre en fait cette entité, si tu veux, elle a tous les pouvoirs. Pour elle, le temps ne passe pas. Elle comprend tout, elle sait tout, elle calcule tout. Et elle ne comprend pas à quoi on sert en fait. Quel est le but de ces êtres humains qui naissent, et qui vivent et qui meurent et qui font des choix dans la vie sans savoir quelles vont en être les conséquences. Tout ça, cette entité, elle maîtrise tout. Et donc elle ne comprend pas ça. Donc elle vient sur Terre pour essayer de comprendre le sens de la vie humaine. Voilà. Après, il y a d'autres chansons comme Love is the Answer ou The Game of Life qui aussi donnent des éléments de réponse à cette question. Donc c'est un petit peu la question centrale de l'album. Quel est le sens de la vie humaine sur Terre?
Oui. Un côté assez lumineux dans l'ensemble
de
l'album.
Ouais, c'est un petit peu philosophique sans être trop pompeux non plus. Enfin, je l'espère en tout cas. Tu vois. Et puis il y a des morceaux à côté comme Slave to Rock and Roll qui sont beaucoup plus légers. Et voilà, faut pas oublier le fun aussi. Non, c'est un album plus fun que les précédents.
Plus fun. Et on en a déjà un peu parlé, mais ton ancrage, il est vraiment dans les années 70, plutôt dans les sons que tu vas utiliser, dans tes inspirations
Alors complètement, on a enregistré d'ailleurs les claviers, le mélotron, c'est un vrai mélotron de l'époque, l'orgamon, un vrai orgamon avec une cabine Leslie, on a été enregistrer ça au studio Cartelier qui se trouve à Salaise-sur-Sanne.
Oui.
Vous le connaissez?
On connaît bien.
Voilà, on a enregistré ça chez Raph là-bas.
Très bien.
Après moi j'ai mon cousin Richard Vecchi qui habite à côté à Rochetaillée-sur-Saône et qui est lui un collectionneur de claviers analogiques, donc les synthés analogiques. Ça peut être du ARP, du Roland, du Yamaha, il y a tout ce qu'il faut là-bas, le piano aussi, on a enregistré là-bas. On a fait tout, on a utilisé aucun simulateur ou ce genre de choses, aucun autotune, on voulait vraiment un son pur, donc c'est que des gros amplis de guitare, des chants qui, même si elles sont pas toujours hyper justes, c'est pas grave, on n'est pas là pour prétendre qu'on est des machines. Donc c'est à l'ancienne, il n'y a pas beaucoup de prod comme ça actuellement, mais moi je voulais faire ça. Ouais, comme tu dis, mes influences, si je te donne mes influences, on va être dans Pink Floyd, dans Genesis, dont on parlait tout à l'heure, dans Led Zeppelin, dans Supertramp. Donc c'est très très 70s et je voulais vraiment ce son. Alors, il y a quand même un mastering fait par Real World qui donne un son un petit peu plus moderne quand même, général.
Ouais. Ouais.
Mais les prises de son, c'est très très roots. Très très roots.
Et c'est un choix qui est naturel pour toi, j'imagine, c'est pas un calcul.
Parce que c'est ce que j'aime. C'est pas un calcul. Si c'était un calcul, ce serait un très mauvais calcul, je pense, parce que commercialement parlant, c'est pas forcément les bons choix, même si le vintage, ça revient.
Ça
revient pas mal à la mode.
Avec le retour du vinyle, un petit peu.
Le retour du vinyle, notamment. Mais moi, j'ai toujours aimé ce son-là, donc déjà, si t'écoutes Audity, tu vas déjà reconnaître un son comme ça. Pareil, on a passé des mélotrons dans les cabines Leslie.
Ouais.
à l'époque. Et non, c'est le son qui me caractérise, c'est le son de mes influences, c'est le son de la musique qui me touche le plus. Ouais. Après, je pourrais faire d'autres choses pour expérimenter, mais moi, ce que j'aime, c'est là, quoi. Donc, il y a des gens qui me disent, ouais, c'est super ta musique, mais c'est pas très innovant. C'est vrai. Mais j'ai pas la prétention d'être un innovateur et j'ai la prétention de faire ce que j'aime avec mon cœur et mon âme, et c'est déjà pas mal.
Parce que bon, il y a ce truc de notion de rock progressif où on est dans une musique qui était basée sur le mélange de plein de genres et le fait de faire des choses qui n'avaient pas été faites, mais ça c'était le début.
Alors c'était le début, oui. Après ça a évolué, il y a encore des gens qui font évoluer le style maintenant, hein, j'imagine. On parlait tout à l'heure de Steven Wilson, des gars comme ça. Moi c'est pas ce que je recherche, c'est pas ce qui me fait vibrer en fait. Ouais, moi ce qui me fait vibrer c'est quand j'entends des gens qui chantent et qui donnent une émotion avec leur âme, avec leur cœur, qui est pure et qui est telle quelle, qui est pas transformée par 50 000 machines. Et donc bah, c'est ce que j'ai essayé de faire tout simplement dans cet album.
Et ben, j'en profite pour te poser une question qui m'intéressait sur le, on a parlé du vinyle, donc là on a une époque un peu de changement rapide dans la façon d'écouter la musique, la façon qu'ont les gens d'acheter la musique aussi. Le CD est en chute libre dans les ventes, le vinyle remonte un petit peu, il y a beaucoup de streaming maintenant, les gens écoutent beaucoup de musique en dématérialisé, c'est pas facile à dire. Qu'en penses-tu? Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui complique la vie de musicien, de faire vivre en groupe, de vendre sa musique, cette évolution?
Alors je dirais, on a de la chance dans le prog, dans le rock progressif, c'est qu'il y a beaucoup de fans de rock progressif qui sont aussi des collectionneurs. C'est un petit peu des fétichistes de l'objet, hein. Moi je le vois. Voilà, nous quand on fait des concerts, on fait beaucoup de merchandising, parce que les gens ils sont très friands du moindre truc qu'on puisse faire, qu'on puisse ressortir. Et ben ils adorent ça. Et je l'ai vu quand on a fait, je veux dire, là on a fait un crowdfunding, on avait demandé 10 000 euros. Au début j'étais déjà pas hyper optimiste, on a réussi à faire 150%, et parce que les gens ils sont demandeurs d'objets, tu vois, contrairement à des styles de musique. Par exemple, je te disais tout à l'heure, j'ai été un peu dans la country, tout ça. Il n'y avait pas beaucoup de merch, les gens ils achètent pas des disques, ils viennent au festival, ils repartent après, ils viennent pas là pour acheter des disques. Dans le prog, ça reste un milieu de... Alors c'est peut-être aussi parce que c'est des gens aussi d'un âge un petit
certain
peu
âge,
plus...
ouais.
Un certain âge, et du coup ils ont aussi de la nostalgie du vinyle, du CD, tout ça, mais c'est vrai qu'on est dans un style où ça marche bien, et on a de la chance, parce qu'en tant qu'artiste indépendant, sinon ça serait impossible. Je veux dire, faire tourner un projet de A jusqu'à Z, organiser des tournées, tout ça, sans financement, si t'as pas un petit peu de soutien derrière de la part des fans du merch. Et d'ailleurs tu vois, le crowdfunding c'est quelque part, c'est Marillion, le groupe Marillion, qui ont un peu inventé ça a été les premiers, enfin en tout cas parmi les premiers, à dire aux fans à un moment donné, bon bah, on peut plus, nos maisons de disques veulent plus nous suivre, on a besoin de votre soutien, quoi, et on va sortir un album et on va le vendre avant de l'avoir sorti, quoi. Et les fans ont suivi parce que les fans ils sont demandeurs. Ils organisaient un événement pour passer du temps avec leurs fans et tout, donc je veux dire, les fans de Marillion ils sont choyés, quoi. Et moi je trouve ça génial en fait, ça crée une relation qui est pas juste la relation de fan à artiste que le fan va regarder, admirer, tu vois. Non, on peut les rencontrer, on discute, moi j'adore discuter avec les gens à la fin. Alors il y a souvent des gens qui viennent me voir et qui s'y connaissent plus en rock progressif que moi, donc ils me posent des questions sur tout un tas de groupes obscurs dont je n'ai jamais entendu parler, parce que forcément le temps que moi je passe à faire de la musique, ils le passent à écouter des trucs que moi je connais pas forcément. Donc c'est toujours intéressant, et mais on a de la chance d'avoir un public alors c'est pas un public très large, mais c'est un public de gens qui sont passionnés,
fidèles
et qui soutiennent les projets à fond, quoi. Et ça, c'est ça n'a pas de prix.
Donc c'est ton premier vinyle. Est-ce que tu, vu que ta musique est quand même très ancrée dans les 70s, est-ce que tu penses que pour l'écouter, le vinyle c'est le bon support au niveau de la texture du son qui est propre au vinyle?
Alors c'est une question délicate, parce que qu'en fait quand j'ai fait l'album, j'ai pas pu l'écouter moi sur un vinyle. Bon, je pouvais pas me rendre compte de ce que ça allait donner, donc on a fait confiance à Real World pour faire le mastering et le résultat final. Donc j'étais très content quand j'ai écouté le résultat final, mais jusqu'à ce que je l'écoute moi-même, qui m'envoie les vinyles tests, j'avais aucune idée de ce que ça allait sonner, tu vois.
T'es content du résultat?
Je suis très content du résultat parce que c'est fidèle à ce que je voulais, c'est fidèle c'est fidèle au CD, tu vois. Il y a un son un petit peu plus vintage quand on écoute le vinyle, donc c'est un peu bizarre, et puis avec le truc qui tourne, ça fait un espèce d'effet chorus qui est sympa. C'est vrai que c'était la première fois. Alors moi le problème entre guillemets du vinyle, c'est que t'es limité dans le temps. C'est-à-dire qu'un vinyle, normalement on m'avait expliqué, il faut pas que ça fasse plus de 22 minutes par face. Normalement, donc moi je suis à 26, donc déjà ça dépassait. Donc ils m'ont expliqué que j'allais perdre de la dynamique, notamment dans les graves, parce que les sillons du vinyle sont plus il y a du grave, plus le sillon est large. Mmh. Et forcément, la place sur le vinyle, elle est limitée. Donc, si tu fais des sillons très larges, et ben. Ouais. Donc, ils m'ont bien expliqué ça. Ils m'ont dit, bah, si par exemple, tu fais de la musique hardcore avec du. Tu peux mettre que 15 minutes parce que ça rentrera pas plus.
D'accord.
Par contre, si tu fais de la musique classique très légère, là, tu peux aller jusqu'à 25-30 minutes parce que comme il y a moins de grave, ben, les sillons vont être beaucoup plus fins. Donc, ils m'ont dit, vous, dans le rock, faudrait rester à 20 minutes, allez, 22 max. J'ai dit, non, moi, j'ai 26. C'est difficile à couper les morceaux.
Tu voulais pas enlever de morceaux pour.
Par contre, comme c'est du rock progressif, effectivement, il y a des passages très calmes. Où il n'y a pas de basse du tout, qui vont faire que certains sillons vont être beaucoup plus larges. Tu as des passages de 2-3 minutes
guitare,
très,
voilà, piano,
très Genesis, tout ça. Mm. Ah, donc là, ça permet effectivement de
compenser.
De compenser, bah, notamment sur Foxtrot. Je crois que la deuxième phase, il y a Supper's Ready qui doit durer 24
de toute
minutes.
Façon, les albums de Genesis, ils durent plus 50 minutes que 40.
Ils étaient longs,
que
40, voilà. Ouais. Mais c'est sûr que sur Foxtrot, par exemple, tu as Supper's Ready qui fait 24 minutes, il me semble.
Plus
et
Horizon
qui fait 1 minute et demie, donc on est à 25 et demi. Par contre, voilà, Horizon, c'est un morceau juste acoustique qui doit prendre des sillons très fins. Dans Supper's Ready, tu as de longs passages acoustiques tout le début qui
Ouais,
donc du coup ils s'y retrouvent comme ça quoi. Ils arrivaient à faire rentrer ça comme ça à résoudre cette problématique là. Moi c'est un petit peu plus compliqué parce que j'ai des albums qui sont un petit peu plus longs. Là notamment bon, l'année prochaine c'est les 10 ans d'Audity et je sais que le vinyle revient et je commence à réfléchir. Il y en a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que tu vas ressortir le back catalogue en vinyle, donc je me dis tiens, pour les 10 ans ça pourrait être sympa de faire une version Audity Anniversary. Mais bah pareil, il va falloir que j'enlève des morceaux, ça va pas rentrer. Et puis en plus si je les mets dans le même ordre, bah, t'as pas forcément les deux faces qui fassent ce qu'il faut t'arranger pour que les deux faces soient à peu près équivalente, tu vois, ce qui est pas toujours évident. Ce qui est pas toujours évident. À l'époque, ils concevaient leurs albums comme ça.
Oui, c'était.
Mais nous, quand on a sorti un CD, on s'est pas posé ce genre de questions. Est-ce que ça se divise par deux? Est-ce qu'on peut faire 20 ou 23 par exemple? Ou est-ce que ça va être une phase de 28 minutes et une autre de. Enfin, je veux dire, si t'as deux morceaux de 14 minutes et puis derrière t'as plein de petits morceaux, c'est plus facile. Mais si tu vas pas changer non plus l'ordre,
ça aurait
pas de sens pour moi de changer l'ordre sur le vinyle par rapport à ce qui est sorti il y a 10 ans en CD. Donc il y a ce genre de problématique là. Qu'on n'avait pas, effectivement, sur le CD, t'as 75, 70 minutes, 74 minutes de musique. Donc, ça marche. C'est pour ça que j'ai mis des pistes bonus. Parce que j'avais deux, trois morceaux en plus. Et puis, pareil, les radios édites que j'ai mis sur le CD, ça, c'est plus pour des radios, je dirais, pas trop comme la vôtre, des radios plus grand public qui ne vont pas passer des morceaux de 10 minutes. Vous, ça vous fait pas peur de passer un morceau de 10 minutes?
Non.
Et donc, je les ai mis que sur le CD. Ça n'a pas de sens de les mettre sur le vinyle parce que je pense pas qu'il y ait des radios qui passent du vinyle maintenant. Ça m'étonnerait. Mais il y a quand même deux morceaux de plus du coup sur le CD, deux morceaux bonus du coup, qui sont pas sur le vinyle parce que ça rentrait pas. Mais bon, il y a certaines personnes qui achètent les deux juste pour ça, donc.
On en connaît, C'est toujours les fun fun.
Exactement.
Eh ben merci pour toutes ces infos. On va s'écouter un nouveau morceau, c'est The After Effect.
Ouais, donc c'est celui que je parlais tout à l'heure, donc qui a inspiré la pochette.
On en a déjà un petit peu parlé pour le texte.
Ouais. Donc ça a été composé complètement avec mon claviériste, donc Olivier Cassan. Donc il y a beaucoup de parties de clavier dedans, le clavier est assez mis en valeur. Et c'est un morceau qu'on joue en live depuis avant que l'album sorte. On le jouait depuis 2 ans déjà en live. Donc c'est un morceau, ça fait partie des morceaux qu'on a testé en live et qui a un petit peu aussi évolué dans le live. Et voilà l'histoire de notre extraterrestre qui est sur la pochette de l'album. Donc.
D'accord. Une explication de la pochette au passage. Donc c'est parti pour le The After Effect de Frank Carducci.
Must be an outer space.
Voilà, on vient d'écouter The After Effect de Frank Carducci, extrait de son dernier album The Answer, sorti en novembre 2019. Et Frank Carducci est avec nous pour cette émission spéciale, une interview donc de Frank à l'occasion de la sortie de l'album et aussi à l'occasion d'une tournée qui va bientôt débuter, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Et donc tu as monté une formule plus légère, d'après ce que j'ai lu.
Alors sur la dernière tournée, on était sur un truc où on était 8, donc c'était un petit peu plus lourd déjà à déplacer et à placer, parce qu'il fallait suffisamment de place, suffisamment. Donc t'as plein d'endroits, des petits endroits où on pouvait pas passer parce que ça rentrait pas, parce que techniquement il y avait pas le matériel qu'il nous fallait. Enfin, c'était un petit peu plus restrictif. Je me suis dit là pour le nouvel album, j'ai envie d'avoir un petit peu de mettre un petit peu de sang neuf, un petit peu d'énergie. Donc déjà, j'ai recruté deux nouveaux musiciens qui sont beaucoup plus jeunes, notamment Léa à la batterie qui habite à Croix-Rousse justement, pas très loin d'ici, que j'embrasse si elle nous écoute, et Bart à la guitare qui sont eux dans leurs 25 ans, tu vois. Donc c'est plus jeune et sur une formule plus compacte. Et plus flexible à la fois, qui me permet de placer. Alors, si c'est sur des gros endroits, bah, on, on occupera la place. Hein. On a toujours Marie Reynaud dans le groupe qui prend beaucoup de place de toute manière visuellement dans le groupe. Mmh. Mais de pouvoir aussi jouer dans des endroits beaucoup plus petits et en étant quand même faire notre show à minima quoi. Donc ça c'était un truc important pour moi parce qu'il y avait beaucoup d'endroits qui me demandaient où j'étais obligé de leur dire bah non on pourra pas passer parce qu'avec la structure qu'on a en ce moment donc ça c'était l'année dernière ça marchera pas dans un endroit comme là donc pour cette nouvelle tournée j'ai voulu faire un truc un peu plus adaptable.
D'accord. Et donc c'est une tournée qui commence à Lyon
Qui commence à Lyon, alors le 6 mars à Lyon, à la Vache Rouge, c'est juste à côté du périph' au niveau de Vénissieux. Donc c'est, en plus c'est des amis qui tiennent ça, on y joue régulièrement aussi en mode reprise, et puis là on fait le lancement de la tournée là-bas. Alors au début je me suis dit c'est bien, ça va me faire un petit concert de rodage, et puis finalement il y a tous les potes qui viennent, je pense que ça va être complet à craquer, et du coup on a plus la pression parce que c'est le premier concert, forcément ça sera pas le meilleur. C'est toujours comme ça, le premier concert de la tournée,
tu vois,
je me suis dit nous ça va nous faire une petite date pour se roder, et puis finalement c'est là qu'il y aura tous les potes. Donc on va tous... Enfin voilà, donc ça se passe à Lyon. Ensuite la semaine d'après on part en Dordogne, on part à Bordeaux. Et ensuite on part pour 15 jours en Angleterre, où on joue quasiment tous les soirs pendant 15 jours.
Wow, très bien.
Et là on a deux gros festivals là-bas, le festival Fusion et le festival HRH qui se passe sur deux jours. Ça se passe une date à Sheffield, une date à London, Shepherd's Bush Empire. Donc ça c'est aussi une grosse salle avec Rick Wakeman notamment, qui est la tête d'affiche du festival.
Excellent.
Ça va être chouette. Entre autres il y a Focus aussi. Ensuite on revient, on a une date à Paris au Gibus.
D'accord.
On fait deux dates en Allemagne, on a des dates aux Pays-Bas, en Belgique. On retourne en Belgique, ça fait un moment qu'on n'y a pas été. On revient dans la région au mois de juin et on a une date à Chambéry au Brin de Zinc le 19 juin et le 20 juin pour la fête de la musique à Saint-Étienne.
D'accord. Plutôt une belle tournée. Hein,
donc c'est une tournée de printemps. Donc tu vois, comme c'était le début avec un nouvel album, un nouveau spectacle, je me suis dit on va débuter avec cette tournée-là. Donc il y a toujours l'Angleterre. L'Angleterre c'est là où on joue le plus, c'est toujours là où on a le plus de dates. Ça fait alors, la 7e ou 8e fois qu'on y va.
Comment ça c'était venu comme ça de tourner régulièrement en Angleterre? C'est que tu as eu une demande? C'est que tu as cherché à
c'est
jouer?
C'est que j'ai eu une demande à la base. Ça a toujours été un rêve pour moi d'aller jouer un jour en Angleterre. Et puis en 2015, j'ai été contacté par une agence là-bas qui book des groupes, qui book notamment l'Azuli. Vous devez les connaître, l'Azuli. Et qui m'a dit tiens, on organise une tournée avec trois groupes. Est-ce que ça te dirait de venir? On l'a fait et ça a super bien marché. À part financièrement, mais bon, on n'était pas là-bas pour ça. Et du coup, on a eu très vite de la demande d'y retourner. On y est retourné en 2016, en 2017, en 2018, deux fois en 2019. Et là, on y retourne en 2020 et on y retourne fin 2020 déjà. Donc après, avec le Brexit, ça va être un petit peu plus compliqué.
Ah ouais, c'est possible.
C'est possible que ça change rien. C'est possible qu'il y ait des accords. C'est possible que, pour cette année, normalement, ça va rien changer. On va voir comment ça se passe. Mais là, par contre, c'est la plus grosse tournée qu'on fait. Deux semaines de suite, c'est la première fois qu'on fait aussi longtemps. Donc on va faire beaucoup de kilomètres. On va jusqu'en Écosse, tout ça. Donc, voilà, mais c'est génial.
Et comment ça se passe là-bas, le public anglais, par exemple, par rapport au public français
Alors, si tu veux, nous, il y a trois éléments dans notre musique. Il y a le côté rock progressif, qu'en France on connaît, mais qu'en Angleterre on connaît mieux, j'ai envie de te dire. Oui. Il y a le côté humour, il y a beaucoup d'humour dans les chansons, dans notre mise en scène, tu vois, dans nos maquillages. Nous, on a un visuel très fort sur scène, qui est beaucoup inspiré de gens comme, Peter Gabriel, David Bowie, Alice Cooper, tu vois. Donc il y a beaucoup de ces éléments visuels et qui sont assez fun, en fait. On essaie de tourner ça, tu vois, notamment par exemple Slave to Rock'n'Roll, le morceau c'est quand même une parodie, donc j'arrive avec des costumes un peu à la Elton John, tu vois, très extravagant avec la grosse moumoute, les grosses lunettes, donc ça c'est pour faire rire. Donc il y a l'humour. Et il y a le côté sensuel qui est dans pas mal de mes chansons, qui est notamment incarné par Marie Reynaud dans le groupe, qui amène le côté un petit peu sensuel, tu vois. Et ça, c'est trois choses que les Anglais aiment beaucoup. Je sais pas si tu vois, dans l'humour anglais, que ce soit Mr Bean ou Benny Hill ou les Monty Python, t'as beaucoup ces éléments-là, tu vois. Donc le mélange de rock plus humour plus sensualité, là-bas, ils cartonnent. Et c'est pour ça qu'ils nous ont surnommé. On a eu un award il y a deux ans de meilleur groupe étranger. Et ils nous ont surnommé le Rock'n'Roll Circus parce que là-bas, ils adorent ça, les Anglais. Donc ils sont très, très réceptifs. En France, on a souvent un public qui est étonné, qui nous regarde en disant mais qu'est-ce qu'ils font, c'est du rock ou c'est du théâtre ou c'est un peu les deux. Là-bas, c'est beaucoup plus dans leur culture.
Ils ont plus l'habitude.
Forcément, puis c'est à des groupes anglais que j'ai piqué l'idée à la base, c'est aussi pas étonnant. Donc ça a toujours marché mieux en Angleterre et si tu regardes le nombre de dates cette année, donc on fait quelques dates en France quand même. On passe à Nancy, on passe à Colmar, on passe à Bordeaux, Lyon, Paris, mais en Angleterre, juste en l'espace de 15 jours, on en fait 12 quoi. Tu vois, donc c'est comme ça.
Donc
c'est sympa. Hein. On aimerait bien jouer plus en France ou de manière un peu plus structurée, mais on attend toujours.
Est-ce que du coup le fait, je sais pas comment tu te vends, mais le fait d'être catalogué rock progressif, est-ce que c'est un frein pour jouer en France, tu penses?
Nous, on arrive à être sur la scène rock progressif, donc ça c'est les festivals qu'il y a en France, on les a à peu près tous faits, hein, Crescendo, Prog Sud, tout ça. On arrive à être sur la scène un peu classique rock aussi. On arrive presque à rentrer sur la scène blues rock, hard rock. tu vois, parce qu'on a quand même de bons éléments hard rock aussi dans notre musique. Donc on a fait des festivals comme les Grosses Guitares, comme le Rock'n'Roll Circus Festival, qui sont pas du tout des festivals de rock progressif, qui sont plus des festivals blues hard, je dirais, mais où le classique rock ça rentre dans le truc. On a fait plusieurs scènes, je te parlais tout à l'heure de Laura Cox, il y a sûrement des auditeurs qui la connaissent, on a fait pas mal de scènes avec elle dans le milieu blues hard. Donc on arrive à être un petit peu plus large, et on essaye d'être un petit peu plus large que juste le rock progressif, qui est une toute petite niche. Évidemment.
Ok. Eh ben nous, on relaiera l'info.
Ouais, bah pour le 6 mars concert, à Lyon.
Le 6 mars à Vénissieux.
À Lyon, Vénissieux, voilà.
Ouais, ouais, on en reparlera dans l'émission. François, tu as peut-être des questions. J'ai beaucoup parlé, là, mais peut-être que.
Non, bah, le truc, c'est qu'il reste 10 minutes.
On va, oui.
On passe un morceau de 10
Il nous reste un morceau à écouter qu'on va sûrement couper. De toute façon, même en partant maintenant, on va le couper. Ce qui fait 11 minutes le morceau. Voilà, on peut peut-être en toucher un mot comme avant, parce qu'il y a un invité spécial sur ce morceau.
C'est Asylum, il y a pas mal d'invités spéciales, dont Derek Sherinian, donc claviériste qui a joué avec Dream Theater, Alice Cooper, Billy Idol.
Sons of Apollo maintenant, je crois.
Voilà, ouais. Voilà, il y a d'autres invités, dont Jimmy Palagrossi qui joue qui jouait avec Karnataka, et maintenant il joue dans Zio, c'est un ami à moi qui habite en Angleterre.
Okay.
Fabrice Dutour, qui est un super guitariste lyonnais, qui est souvent dans les magazines de guitare, parce que c'est un guitare virtuoso. Et puis voilà, donc c'est un morceau un petit peu foldingo qui est inspiré par des films comme Vol au-dessus d'un nid coucou.
D'accord.
Et puis par le livre 1984, donc ça mélange un peu des voilà, c'est un petit peu un morceau de dingo, donc il porte bien son nom, l'asile.
Ok.
Oui, non, j'ai, enfin, si j'aurais des questions à poser, mais à mon avis, c'est plus pertinent.
Sinon, je reviendrai. Hein.
Sinon,
c'est plus pertinent quand même de passer le morceau.
On va être obligé d'inviter Franck, sinon.
Avec grand plaisir. Avec grand plaisir.
En tout cas, avec toi, il n'y a pas de blanc dans les interviews, c'est très pratique.
Bavard que je suis.
Tu es un bon interviewé. Mais merci beaucoup. Alors, du coup,
merci de m'avoir reçu. Écoute, c'était un plaisir.
C'est chouette. C'est passé très vite.
Ouais.
Et puis bon, on te souhaite le meilleur pour la tournée, hein, du coup.
Merci beaucoup. Et puis merci à tous les auditeurs. Et puis j'espère vous voir si. Éventuellement le 6 mars.
Ouais, venez, la vache rouge. Donc l'émission, comme d'habitude, elle sera mise sur le blog de l'émission dès demain, normalement. Vous pouvez la réécouter en entier. Du coup, je mettrai le morceau qu'on va couper, malheureusement, aujourd'hui, en entier sur le podcast. Et puis voilà, on se retrouve sinon la semaine prochaine pour une émission plus classique, a priori, hein, mercredi 17-18. Et on se finit donc avec le morceau Asylum du nouvel album de Frank Carducci, The Answer, qui est aussi disponible sur Bandcamp. Tu l'as mis sur Bandcamp récemment.
Oui, il est sur Bandcamp, il est sur toutes les plateformes de téléchargement habituelles, donc iTunes, il est sur Spotify, Deezer, tout ça. Donc il est un petit peu de partout. Il est distribué en France par Quadriphonique.
Ok.
Donc voilà. Puis nous, on est sur internet, sur Facebook, francarducci.com, mon site internet, vous trouvez toutes les infos.
Le CD, le vinyle, vous avez le choix.
Tout est là.
Parfait. Ben merci à tous, merci à Franck.
Merci.
Et à bientôt. Salut à tous.
Ciao, ciao. Asylum, and there is no way out of here.
Well, I suppose he might have drowned. Was he dying for the smoke? Meanwhile, the Brown brothers are on the road. They surely ain't going nowhere. Cause no one escapes the asylum.
As I close my eyes and open my mind instead, I can watch the skies, the summer stars arise in my head. I see butterflies while the flies overhead. So will you sympathize? Some things are better.